De retour à l'émission à l'extérieur, c'est 3 degrés, alternance soleil-nuage. Ça devrait monter un petit peu plus aujourd'hui. On attend un 6 comme maximum. Mais c'est vraiment ce qu'on adore, là. Le ciel un peu ennuagé, mais majoritairement bleu, qui nous attend comme scénario météo aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, c'est moins 1 degré. Demain, jeudi, un peu de neige avec 2 degrés comme maximum. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, ben là, ce sont des averses qui vont se placer partout sur la grande région de Québec. Et à partir de samedi, je ne vois que du soleil jusqu'à mardi prochain avec des vraies températures printanières. Là, on a du 6 jusqu'à du 12 et du 13 même pour les prochains jours. Donc, merveilleux week-end qui nous attend encore une fois après cette semaine de 4 jours. Un enjeu important depuis quelques années maintenant, ce sont les inondations. Les inondations un peu partout au Québec, puis nous, on y a goûté, puis pas à peu près. Il y a un Institut de santé publique du Québec là, que vous connaissez très bien, soit l'Institut de santé publique du Québec, qui commence à se pencher aussi là-dessus parce que ça a des coûts, ça a beaucoup de problématiques aussi par rapport à tout ce qui est localisation de maisons, zones inondables. Il y a eu des refoulements de canalisations qui ont joué aussi dans tout ce qui est peut-être dossiers municipaux. Mais les inondations à travers le Québec, c'est réellement pas le mal du siècle, mais un des problèmes du siècle. Okay? Il y a toujours une vigilance à ce temps-ci de l'année. Il y a toujours des politiciens un petit peu là, sur le bout de leur siège. Moi, je me souviens l'année de la pandémie où tout le monde était au bout du rouleau, puis c'était extrêmement complexe à gérer au quotidien, cette pandémie-là. On regardait un peu là, tout ce qui était canaux, encore rivières, puis on croisait les doigts que ça déborde pas. Heureusement, on a été chanceux. Mais il y a des gens quand même qui sont prisonniers dans des zones inondables. Et c'est des discussions très importantes sur les restrictions réglementaires, la valeur des maisons, des terrains aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec l'octroi peut-être de contrats de construction ou encore d'immobilier dans ces zones-là? Est-ce qu'on veut continuer comme ça puis prendre le risque que ça s'inonde puis après ça essayer de s'assurer d'une manière ou d'une autre? Ouf, c'est des dossiers qui sont loin d'être faciles puis ça vient émotif aussi. Il y a des gens qui sont là depuis des années, qui ne veulent pas déménager, mais il y a aussi des gens qui ont moins d'argent, qui rêvent à une hypothèque puis que c'est dans ces zones-là que c'est assez accessible. Tant de choses à discuter. Et pour le faire, on va aller rejoindre notre chroniqueur habituel, Jérémy Guillot, qui est au bout du fil, directeur chez TAC, mais aussi grand connaisseur du monde politique pour y avoir travaillé pendant plusieurs années. Salut, Jérémy.
Salut, Pascal.
Écoute, les zones inondables, sais-tu le sujet ou un des sujets qui rallie divers paliers politiques et qui est si important à chaque année, mais si lourd à gérer?
Bien, ça revient à chaque année. Moi, j'ai en tête les inondations de 2017. Je ne sais pas si tu te souviens, mais tout le Québec aussi avait été touché par ces inondations un peu partout. Monsieur Legault, Monsieur Trudeau, les différents ministres de tous les gouvernements s'étaient rendus sur place. Tout le monde avait mis la main à la pâte. Ça avait touché autant du côté de Gatineau, de Québec, ouais, de Montréal, etc. Donc, ça revient à chaque année. Et là, cette année, le gouvernement va probablement avoir des mauvaises nouvelles à annoncer à certains riverains parce qu'il va avoir une révision de la carte des zones inondables qui risque d'inclure davantage de résidences à risque dans la nouvelle carte. Ça devrait être annoncé à l'automne 2024. Il va bien sûr avoir une période de consultation en amont, mais le gouvernement du Québec s'engage dans un exercice de tout refaire, la façon dont il évalue qu'est-ce qui est en zone inondable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et à partir de quand on ordonne d'arrêter. Bon, soit il y a probablement des citoyens qui vont devoir évacuer, vendre, déménager leur maison, ou des endroits où on n'aura plus le droit simplement de construire. Donc, c'est un beau casse-tête que le gouvernement du Québec a entre les mains en ce moment.
C'est un casse-tête, mais il est essentiel malgré tout quand on voit des histoires comme l'île Enchanteresse à chaque année ici dans la région. Mm-hmm. Peut-être que tu connais moins, mais c'est des déboires année après année, des gens qui doivent se masser dans des centres communautaires pour dormir plusieurs nuits, sachant pas si leur maison sera touchée ou encore de quelle manière elle sera touchée, parce que ça reste des pertes financières et un peu traumatisantes pour les habitants. À chaque année, il y a comme des stress quand même assez intenses. L'équipement de pompe pour les sous-sols, ça coûte cher, ça brise. On avait vu la même chose du côté de la Rive-Sud, puis c'était justement en 2017, où des employés de l'usine Vachon, les petits gâteaux vachons là, qu'on connaît, là, pelletaient dans le sous-sol, pelletaient de l'eau, puis appelaient dans les radios pour dire ça n'a pas de sens, on n'est plus capable, puis qui ont décidé au privé, eux, de se construire un gros mur qui permet d'un peu protéger là, l'usine en question. Mais quand tu n'as pas ces moyens-là, ben la carte des zones inondables reste importante pour probablement ne pas y aller aussi, puis ne pas se stresser là-dedans. Mais avec l'agrandissement de la carte, qui est essentiel, revenons au fait que c'est essentiel de le faire. Oui, il y a des gens qui pourraient être surpris, puis ça répond un peu en partie à la question de quelqu'un qui nous écrit pourquoi s'être installé près de ces endroits inondables-là dès le départ? Pourquoi avoir acheté une hypothèque dans ces endroits-là? C'est une question facile qu'on peut se poser. Et là, en plus, va s'ajouter
Oui, mais il faut pas oublier non plus que c'est une question facile à se poser, mais il y a un certain moment, une certaine époque où ces zones-là étaient considérées comme des zones qui pas des zones qui étaient inondables ou ce que c'était tout à fait légal et, mm-hmm. et permis de construire à ces endroits-là. Donc, effectivement, en ce moment, bon, il y a des gens qui vont acheter des maisons dont la valeur a dévalorisé parce qu'ils veulent absolument être sur le bord de l'eau. Bon, ça, c'est une décision personnelle discutable, mais ce qui me touche, c'est notamment les gens qui sont établis là depuis des décennies, depuis très longtemps, qui se retrouvent soudainement dans une zone considérée inondable, qui vont devoir soit laisser leur maison derrière, perdre des investissements qui ont duré depuis des années. Pour moi, c'est là que le dilemme du gouvernement en ce moment, ce qui est budgété au niveau du gouvernement du Québec, c'est 75 millions pour aider les municipalités à avoir des projets de relocalisation. C'est vraiment pas beaucoup. Fait, pour répondre à l'auditeur qui nous...
Pour le Québec dit, en entier, là, 75 millions?
Pour le Québec, au c'est niveau rien. Du gouvernement du Québec. Ouais. Je pense que ça va être à revoir éventuellement.
C'est rien.
Mais pour l'auditeur qui nous écrit, pourquoi s'installer là? Ben, il y a une époque où c'était permis de s'installer dans ces endroits-là, où ces endroits-là n'étaient pas nécessairement considérés comme des zones inondables ou à risque. Je prends un autre exemple. En ce moment, par exemple, si on est derrière une zone inondable qui est protégée par une digue, c'était pas nécessairement considéré comme une zone à risque, alors que là, dans la refonte, bon, ça va être considéré comme une zone inondable protégée, mais
inondable quand même.
Mais inondable quand même.
Parce qu'on a vu ça aussi, là, dans les dernières années, une digue lâchée, là, puis les gens avaient 10 à 15 minutes pour évacuer leur maison. Si je me souviens bien, c'était en fin de journée en plus. Là. Donc, ça reste une zone inondable malgré l'équipement. C'est ça qui est fascinant, Jérémy, tu le mets très bien en lumière. Il y a des endroits qui ont été ajoutés à cette carte-là, comme on ajoutera des endroits à cette carte-là prochainement. C'est quoi le premier réflexe citoyen ou le premier réflexe politique dans ces cas-ci? Parce qu'il va y avoir du mécontentement, mais en même temps, c'est essentiel. C'est comme difficile de jongler entre les deux, là.
Bien, c'est sûr qu'il y a des municipalités, notamment, puis des citoyens qui ne seront pas nécessairement contents de ça. Parce que, oui, il y a les citoyens qui doivent quitter leur maison. Il y a les municipalités qui doivent abdiquer à des revenus de taxes foncières additionnelles. Mm-hmm. À travers ça, il faut s'assurer de la sécurité de tous et de toutes. Et là, on parle des digues, on parle des zones inondables. Mais tout ça revient à la question des changements climatiques qui va être le défi du 21e siècle au niveau de toutes les infrastructures du gouvernement du Québec. Parce que, oui, là, on parle d'inondations de maisons et de digues, mais qu'est-ce qui a amené, par exemple, de l'autoroute qui longe la 132, qui longe le fleuve?
Oui.
Des fois, on le voit chaque année, hein, la 132 se fait inonder, ramasser, barrer pendant un certain moment. Donc, comment est-ce qu'on va... La question plus large à se poser, c'est comment on va faire face au changement climatique et comment on va adapter les infrastructures du Québec pour réagir aux inondations qui sont de plus en plus nombreuses, mais à toutes les activités météorologiques qu'on fait de plus en plus face. On se souvient, on a eu quelques tornades au Québec l'année dernière, les années antérieures. Donc, c'est des choses qui sont nouvelles auxquelles les politiciens doivent apprendre à gérer et à intégrer dans les prévisions budgétaires.
Mais ça reste que c'est pas simple parce que, bon, depuis qu'on en parle, Jérémy, il y a quelques minutes, bien, il y a beaucoup de textos qui entrent, entre autres, des gens de... Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire de les dédommager ou autre quand certains savaient, bien, pour ceux qui savaient, par exemple, qu'ils achetaient en zone inondable parce que ça coûtait moins cher vu les risques qui venaient. Puis après ça, bien là, ils se font inonder. Veux pas, bon, ça amène de la tristesse, ça amène de la détresse et ils perdent beaucoup. Puis après ça, bien, on les dédommage parce qu'on n'a pas le choix si on veut être de bons citoyens, de bonnes municipalités, de bons gouvernements. Puis après, la roue recommence. À quel moment ça s'arrête? À qui est la responsabilité, finalement, que ça s'arrête? Est-ce qu'on peut commencer juste avec exproprier les gens et à dire vous allez devoir habiter ailleurs. C'est pas nécessairement le genre de politique qu'on voit tous les jours si jamais on se rend là.
Bien, c'est sûr qu'il y a une part de responsabilité partagée. Les citoyens, de bien s'assurer, de bien faire leurs devoirs avant, peut-être d'éviter d'aller s'établir en zone inondable. De l'autre côté, mais le gouvernement, on commence à parler de relocalisation parce qu'effectivement, à force d'indemniser les mêmes personnes année après année, même peut-être que c'est plus avantageux pour l'État de dire « voici un chèque de relocalisation, va t'établir ailleurs ». Après ça, il y a tout l'aspect sentimental qui est attaché à ça. Il y a l'aspect de « moi, j'ai le droit d'être ici ».
L'aspect finance aussi, des fois, le chèque n'est pas aussi haut que ce que tu as payé auparavant pour ta maison.
On l'a vu, hein, la dernière grande relocalisation, expropriation pardon, qu'on a vue au Québec, c'était notamment la construction de l'aéroport de Mirabel. Ça n'a pas fait que des heureux à l'époque à Montréal. Donc, on a exproprié des agriculteurs, on a exproprié du monde qui ont perdu leur maison, le chèque n'était pas assez gros. Fait que, bref, c'est toute cette négociation-là. C'est un vrai terrain miné dans lequel s'engage le gouvernement avec cette refonte-là, mais ô combien essentiel parce que il n'y a pas juste, pour moi, l'aspect financier, il est secondaire là-dedans parce que à la base, ça reste la sécurité des gens. La pire catastrophe qui peut arriver, c'est des gens qui restent pris pendant les inondations. Et c'est à ce moment-là qu'elle survient des accidents. Et si le gouvernement n'agit pas en amont, ben, il va être accusé à plus tard de ne pas avoir fait les changements nécessaires pour protéger les citoyens, les citoyennes. Et c'est là que le bas blesse, parce que le rôle premier du gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi qui va guider les actions à venir dans cette refonte.
Mais ça, c'est fascinant parce qu'en plus, je trouve que c'est une politique qui est, comment dire, qui est exigeante. Je vais le dire comme ça parce que, oui, tu as l'enjeu de sécurité publique, l'enjeu collectif où tout le monde doit comprendre la situation puis vouloir jouer, mais on revient à l'émotif. Tu sais, puis ce matin, il y avait un texte dans la presse à ce sujet-là. Entre autres, une femme qui voudrait adapter sa maison vu sa condition. Elle est en perte d'autonomie, mais elle ne peut pas parce qu'elle est en zone inondable. Pardon. Puis elle est contrainte d'utiliser une toilette sèche, se laver à la débarbouillette. Là, on en jase de cette manière-là. Il y a aussi des gens qui veulent finir leur jour dans leur maison en se disant, moi, peu importe ce qui arrive, au pire, j'irai en CHSLD ou j'irai ailleurs. Ça fait des années que je suis ici. J'y tiens. Ça, c'est tout un bras de fer qui nous attend au Québec. Juste quand tu parlais de la 132, il va falloir prendre des décisions en ce sens-là parce que les gens sont isolés quand ça arrive. Ils ne peuvent pas bouger, en fait. Ils ne peuvent pas circuler à moins de faire des détours. Pas encore là, si c'est possible. Mais je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotifs dans le dossier, Jérémy. Est-ce qu'il faut faire attention à ça quand on est au gouvernement ou il faut mettre nos culottes, selon toi?
Ben, tu peux jamais enlever l'émotion, les prises de décision. C'est sûr et certain, ça vient toujours chambouler, c'est toujours plus difficile, mais tu peux pas laisser les émotions guider cette réforme-là, parce que et la première pensée qui me vient en tête, c'est triste hein, ces situations-là, mais tout le monde entier doit faire face à ces changements-là. On regarde juste ce qui se passe du côté de Taïwan en ce moment avec les tremblements de terre qui font le tour de la planète, les plus grands tremblements de terre qu'il y a eu dans les 20 dernières années. Toutes les villes à travers le monde, puis tous les États à travers le monde doivent revoir leur façon de faire parce que notre climat, il change. Et si on laisse les émotions guider notre prise de décision, on n'arrivera pas à faire face aux défis qui sont devant nous en assurant la sécurité de tous et en assurant aussi une saine gestion des finances publiques. Donc, malheureusement, des fois, c'est plaisant être politicien, des fois, ça l'est un peu moins, mais dans des dossiers comme celui-là, c'est le côté un peu moins le fun de la job de nos politiciens.
Terminons avec ça. C'est sûr que ça peut jouer sur une campagne électorale. Si on prend d'assaut un dossier comme celui-là, est-ce qu'on doit, en tant que citoyen, ouvrir nos œillères puis se dire ben, un gouvernement qui va se tenir pour la sécurité publique puis dans les zones inondables, peut-être justement la relocalisation de certaines personnes, même si c'est très émotif, finalement ne fait que son bon rôle de gouvernement? Parce que ça peut tellement jouer sur l'émotif qu'on va voir des reportages un peu partout, puis ça peut miner une campagne électorale, mais un gouvernement qui se tient, finalement, il faudrait peut-être le voir comme positif.
Malheureusement, je ne veux pas être un peu cynique, mais un dossier comme celui-là, bien géré, aura probablement pas beaucoup d'impact sur une campagne électorale, mais un dossier comme celui-là, mal géré, peut probablement faire très mal dans certaines zones clés, notamment en zone inondable. mais je ne pense pas que ce dossier-là va jouer dans l'élection du prochain gouvernement, okay, à moins que ce soit une vraie catastrophe.
Mmh. Et la patate chaude entre les mains des municipalités aussi, des gouvernements, puis des citoyens finalement. Mais effectivement, il faut s'adapter, puis on va suivre ça de près, comme d'habitude, dans notre travail, c'est notre rôle. Merci beaucoup, Jérémy. Guillaume, un bonheur de t'avoir parlé. T'es directeur chez TAC et tu nous fais une chronique hebdomadaire ici à Boulevard 102.
Merci, Pascal. À la semaine prochaine.
Oui, très intéressant d'entendre Jérémy là-dessus. Ça vous fait tellement réagir. Je savais que, parce que j'avais des souvenirs là, à chaque fois que ça arrive, même ceux qui ne sont pas concernés ont des choses à dire là-dessus. Beaucoup de commentaires. J'aimerais ça en avoir aussi de certaines personnes en zone inondable. Il y a entre autres Pascal qui nous écrivait. Moi, je pense que je vais être ajoutée à cette fameuse refonte de la liste de zones inondables. Il dit ajouter là-dessus les zones d'éboulement sur le bord du fleuve. La carte sera présentée cette année. Je sais que je suis dans cette zone qui sera peut-être dans un changement de statut, malheureusement. J'ai dit, comment tu prends ça? Il dit, difficilement, parce qu'on a vendu notre maison à Québec pour acheter cette maison pour notre retraite dans quelques années. Mais en achetant, rien ne nous parlait, mis à part cette zone-là sur le bord du fleuve. Puis, on est émotif aussi là-dedans si on se fait ajouter dans la liste. C'est le commentaire d'un auditeur. Je trouve ça super intéressant. Quelqu'un d'autre qui dit, ben moi, je voudrais jamais léguer ça à mes enfants non plus. Avoir une maison dans une zone compliqué justement en termes d'environnement puis de catastrophes naturelles. Finalement, c'est un stress que je ne voudrais pas vivre de façon annuelle. C'est un bon point aussi, tu es toujours stressé. L'équipement te coûte cher. Finalement, est-ce que ta quiétude vaut plus que peut-être l'économie que tu vas faire ou encore ce bel environnement dans lequel que tu vas habiter? C'est une façon de voir les choses. C'est intéressant. Quelqu'un d'autre qui dit, rendu là, c'est leur problème. Si t'en vas t'acheter, tu vas t'acheter une maison du côté d'une rivière, c'est toujours juste une question de temps avant que tu sois inondé. Quelqu'un d'autre qui dit, la question de départ, ben c'est ça. Pourquoi est-ce que tu t'en vas là? C'est courir après le trouble. Quelqu'un d'autre qui dit, j'ai travaillé avec la municipalité de Scott pour développer différemment le centre-ville. Ouais, il y a des municipalités qui ont été proactives aussi là-dessus puis qui ont voulu mettre l'épaule à la roue, puis essayer justement de faire en sorte que leurs habitants soient pas à risque. Mais ça, c'est un super bon point, là. Moi, je me souviens du côté de Sainte-Marie, je crois. C'était discuté comme quoi. Ben, pourquoi vous avez, dans les dernières années, donné la permission d'aller se construire ou encore d'aller acheter une maison dans certains secteurs quand on savait qu'ils étaient à risque? Est-ce que c'est une histoire de taxes? Est-ce que c'est une histoire de vouloir remplir les coffres? Les citoyens se posaient énormément de questions face à ces choix municipaux-là. C'est intéressant. On a tous notre devoir de se renseigner, mais la municipalité aussi devrait peut-être nous guider là-dedans. Quelqu'un qui dit en terminant, nous, on a un chalet à l'Île-Enchanteresse, on l'a vendu après la première inondation, comme un peu trop de troubles. Je comprends. Et dans un instant, on va accueillir Vincent Dessureau, chroniqueur dans Gravel dans le retour et collègue ici, complètement crackpot. Il est passionné par ce qui s'en vient la semaine prochaine. Il va en jaser. Il veut la voir. Il veut en faire un spectacle. De quoi parle-t-on avec Vincent Dessureau dans un instant? Après Balade à Toronto, de Jean Leloup, à Boulevard 102.1.